Est-ce qu'il faut vraiment dire des trucs aux gens, genre vas-y, fais l'amour à l'objectif et prendre un accent un petit peu anglais comme dans les films? Ou pas du tout?
Ça peut marcher. Moi, j'aime bien le petit truc fait comme si tu me détestes.
Ok.
Et du coup, les gens réagissent de façon un petit peu plus brutale et se décoincent un petit peu.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, deuxième épisode de notre voyage en Espagne. Aujourd'hui, on reste à Madrid, toujours avec Jérôme, que vous avez entendu parler de sa vie d'expatrié dans le dernier numéro. Cette fois, c'est à son métier qu'on s'intéresse. Jérôme est photographe. En ce moment, il fait principalement du portrait, mais il est aussi passé par la photo produit, les mariages, le sport ou même l'érotisme. À une époque où la photo est partout et surtout à la portée de tous, quel est le boulot et quelles sont les compétences d'un vrai pro de la photo? Avec Jérôme, on a aussi parlé photos de téléphone portable, style personnel ou photographie virtuelle dans le jeu vidéo. Évidemment, on en a aussi profité pour se balader un peu dans Madrid avec son appareil. Des photos que je vous invite dès maintenant à retrouver sur Instagram, @occupationpod, histoire d'avoir l'image pour accompagner le son. Première question très philosophique. C'est quoi une belle photo?
Une belle photo. Une belle photo, bah, c'est propre à chacun, je pense. Enfin, tu fais une photo de ton gamin et ta mère va dire waouh, c'est une belle photo, c'est magnifique. Après, objectivement, ce qui est clair, quand on pense, ça a pas mal bouleversé la façon de voir et d'appréhender une œuvre, une photo. Et du coup, bah, c'est une réponse super complexe.
Mais j'ai commencé par le plus dur.
Ouais.
Comme ça, c'est fait.
Moi, je dirais qu'objectivement, il y a des règles de composition.
C'est quoi le plus important, par exemple? L'éclairage, le cadre, le sujet? Est-ce qu'on peut faire une très belle photo d'un truc moche?
Ah bah oui, clairement. Comment il s'appelait ce photographe? Weston, je crois, qui faisait des photos de courgettes. Et les photos sont juste magnifiques, quoi. C'est un bel éclairage, une belle composition, un cadrage parfait. Et du coup, c'est des natures mortes. C'est comme en peinture. Enfin, une belle peinture peut être une nature morte. Du coup, en vrai, c'est un sujet qui n'intéresse pas grand monde. Mais ça reste une belle œuvre, quoi.
Justement, quand tu dis « ça n'intéresse pas grand monde », en fait, il y a des photos que toi, tu vas trouver magnifiques et les gens, ils vont te dire « ouais, mais non ».
Non, mais c'est ça, en fait, c'est...
Tu vois, je prends un exemple, tu disais une photo de courgette. Mm-hmm. Le Pékin moyen, il va avoir une courgette, et il va dire, c'est une courgette, quoi.
Ouais, courgette, c'est une... J'ai dit courgette, mais je sais que c'est pas une courgette.
Ah oui, c'est un poivron.
Voilà, je te la montre, pour que tu vois de quoi je parle.
Ah oui, donc c'est un poivron.
Voilà, c'est ça.
Mais, on dirait pas un poivron, quand même.
Bah, c'est... enfin...
On dirait une sculpture.
Du coup, c'est un poivron qui est illuminé de telle façon... un peu érotique, ça pourrait être une photo de nu, un dos d'une femme.
C'est ça, j'étais en train de dire, on aurait dit un mec qui monte ses biceps, par exemple, parce
aussi,
que ça remonte sur le côté. D'accord. Oui, donc ça, en effet, mais c'est de l'art, là. On est...
Bah oui, c'est de la pratique, chacun sa pratique, ce qui l'attire plus. Avant, c'était très scindé. Donc photographe de mode, photographe documentaire, photographe de guerre. Aujourd'hui, on a tendance à tout regrouper. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à être beaucoup plus polyvalent qu'avant. Et surtout par besoin de gagner sa vie d'une certaine façon. Du coup, tu peux être photographe de guerre de mois, documentaire plus que de guerre. Mais faire des photos de mariage... la période d'été pour gagner un peu de thunes et faire une expo de temps en temps. Et du coup, il y a vraiment une tendance à être, être polyvalent.
Toi, on va revenir un peu dans la technique. Qu'est-ce que tu sais faire de plus en tant que photographe pro, dont c'est le métier, que moi ou l'auditeur moyen avec son portable ne peut pas faire? Ça va être quoi la valeur ajoutée? Tu vois, tu as des techniques particulières. Qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? On s'est baladé dans Madrid, tu m'as parlé de vitesse, d'obturation, d'objectifs que tu as, etc. C'est là aussi où se joue la différence, en partie sur la... Alors, pas sur le matériel, mais sur la connaissance du matériel, peut-être.
Bah, c'est pareil, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans. J'aurais pu répondre de façon beaucoup plus claire. Maintenant, avec la qualité qu'on a avec un mobile, il y a beaucoup de photographes, même professionnels, qui se passent de prendre un appareil photo pour faire des photos dans la rue. Parce que du coup, ils trouvent leur compte et c'est léger, c'est pratique. Et,
donc on peut faire des bonnes photos avec un portable.
Oui, en plus maintenant les portables ont des modes professionnels. Si tu veux vraiment prendre le temps, tu peux gérer la vitesse d'obturation, tu peux gérer la profondeur de champ. T'arrives pas à la même qualité en vrai, juste pour question d'optique. Je pense que maintenant avec la technologie, d'ici peu, ça va, ils vont trouver un moyen de sauter un petit peu ce gap de qualité. Mais oui, du coup, optiquement, pour l'instant, forcément, quand t'as un objectif qui pèse 2 kilos avec une série de miroirs, t'as pas la même qualité qu'avec un téléphone. Mais ça, objectivement, pour être photographe, si tu veux faire ressentir des faire sentir des choses au spectateur, parler d'un sujet qui te tient à cœur, t'as pas forcément besoin d'un matériel professionnel aujourd'hui.
Donc la différence, c'est le coup d'œil.
Souvent, c'est le coup d'œil, ouais.
Là, tu prends quoi en photo ?
Juste pour toi, le 55 degrés.
Ah, le 55 degrés, c'est gentil. Mais alors, en vrai, qu'est-ce qui te déclenche, quoi ? Là, on marche dans la rue et des fois, tu sors l'appareil sans que je comprenne pourquoi. Toi, tu vois quoi ?
Des formes. C'est un peu compliqué à expliquer en fait.
C'est dur d'expliquer l'art.
Du coup, je marche et les formes au fur et à mesure se juxtaposent dans ton champ de vision. Et tu dis que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre la photo. T'as comme une harmonie visuelle qui se forme devant toi. Et comme tu connais l'objectif que t'as, les réglages photo que tu as, tu sais le rendu que tu vas avoir. Et du coup, tu sais que c'est le moment où il faut prendre la photo. Je sais pas si c'est clair.
Si, complètement. Et ce que je me demande, c'est que du coup, est-ce que tu peux prendre une photo si je te dis, on s'arrête là et là, tu fais une belle photo. Tu peux pas, en fait, parce qu'il faut que tu vois les formes d'abord, en fait.
En fait, tout est photographiable.
Ouais.
Et du coup, tout dépend de ton point de vue et ton ouverture d'esprit et ta connaissance de ton appareil et du rendu que tu peux avoir. Du coup, en vrai, tu me demandes de faire une photo ici, on a arrêté. Même avec un objectif fixe, en vrai, je pourrais faire quelque chose. Il y a des lignes au sol. Je peux faire une composition très géométrique avec trois lignes et ça va faire une bonne photo, objectivement, bien composée, avec des bons contrastes. Et en vrai, c'est assez simple, quoi.
Est-ce que le coup d'œil, ça se travaille ?
Clairement. Enfin, tu vois, moi, je le vois avec tous mes potes photographes. Quand tu suis un petit peu, il y a très peu de gens qui travaillent son profil Instagram, par exemple, de façon à montrer juste son meilleur profil. Je sais pas si... Et du coup, tu vois une évolution. Tout le monde a laissé ses photos anciennes publiées il y a 5-10 ans. Il y a une évolution claire. Et net, plus tu pratiques, plus tu t'instruis, plus tu compares avec, t'apprends un petit peu d'histoire de l'art, tu vas voir des peintures, des musées, clairement ton œil s'aiguise, ton œil s'aiguise, quoi.
Tu t'affûtes, ouais. Mm-hmm. Et donc c'est un travail qui est conscient, enfin qui est pas conscient en fait, c'est inconscient aussi, c'est à force de culture, de vue et de travail, quoi. Tu ne dis pas je vais travailler mon style, tu vois, tu réfléchis pas.
Ouais, ça peut se travailler, du coup en copiant des styles. Clairement, quand tu fais une école, t'as un saut de qualité en très peu de temps, qu'ont peut-être pas d'autres photographes compris, qui sont pas passés par une école, justement. Parce que du coup, tu vas prendre le temps et t'as des gens qui vont t'aider à comprendre comment tu peux arriver à un style, à un autre, qui vont te donner des exercices. Et du coup, clairement, ça se travaille. Mais il y a une grosse partie inconsciente, ce qui fait qu'au final, t'as ton style propre. Tout ça, c'est un travail inconscient et qui n'est pas seulement propre à la photographie, sinon de ton style de vie, de ton secteur géographique, de ton expérience de vie.
Toi, sur ton Instagram, par exemple, il y a beaucoup de noir et blanc. C'est un truc que tu as conscientisé. Tu définis ça comme faisant partie de ton style ?
Bah maintenant c'est quelque chose qui arrive à, je pense c'est une partie de mon style, ouais. Bah, j'ai une amie qui me dit que quand elle voit des photos, elle sait directement que c'est les miennes. J'avais créé un compte, elle savait pas que c'était moi, qui avait un nom totalement différent. Elle m'a dit, ça je sais que c'est ton compte. Et ça m'a surpris, ça m'a pas mal surpris, ouais, parce que je considère pas avoir un style tellement prononcé. Mais apparemment si, enfin, doit y avoir des marques. Mais aujourd'hui, le noir et blanc, c'est quelque chose que j'ai expliqué aussi pas mal. Il y a pas mal de monde qui m'ont demandé. C'est quelque chose, c'est curieux. Depuis que j'ai vécu en Espagne, mon style est devenu beaucoup plus sombre, plus avec un travail en noir et blanc. Et du coup, depuis que j'ai arrivé en Espagne, mon style est devenu beaucoup plus contrasté. Je pense que par la forte influencé par la forte lumière, le soleil qu'il y a ici, du coup ça crée des ombres très dures. Et du coup je me suis mis à travailler beaucoup les ombres et les lumières, beaucoup plus que le fond. J'ai travaillé surtout la forme. Et il y a un contraste énorme avec mes photos de Londres, par exemple, quand je vivais là-bas, qui étaient des photos très couleurs. Et du coup c'est un peu bizarre parce que Londres c'est une ville plutôt gris, une ville grise. Et ici, en Espagne, c'est tout est très coloré. Et du coup, j'ai supprimé la couleur petit à petit. Peut-être aussi par facilité. Bah, pas par facilité, pour rejeter un peu la facilité. Parce que du coup, c'était facile de faire des couleurs un peu attractives. Et faire des photos un peu attractives grâce à la couleur. Et du coup, j'ai trouvé j'ai travaillé un style
C'est marrant parce
plus,
que...
plus abstrait.
Ouais, j'allais dire, c'est marrant du coup cette inversion en effet, de dire la ville est colorée donc moi je vais passer en noir et blanc. Tu as photographié des tonnes de choses différentes, des produits en studio, du portrait, des mariages, alors professionnellement ou pas, hein, mais c'est parce que je t'ai déjà vu évoluer avec un appareil photo dans toutes ces choses-là, des conférences, des concerts, du sport, des végétaux, même des photos érotiques, voire plus sur internet. Mais non, mais voilà, c'est aussi preuve du parcours polyvalent et du fait que tu dois aussi faire beaucoup de choses pour gagner ta vie. Pourquoi je cite tout ça, c'est pour te demander, c'est quoi le plus dur à photographier? Est-ce qu'il y a un truc qui est dur à photographier, ou alors est-ce que justement c'est là que ton œil joue et tu t'accommodes de tout?
C'est là que ton œil joue. Bah, en vrai, quand tu apprends des techniques, tu peux réussir à pas être mauvais photographe dans tous les secteurs. Après, j'ai clairement des préférences. Enfin, j'ai vraiment du mal. En vrai, sur mon Instagram, si tu regardes. Il y a très peu de gens qui apparaissent. C'est des photos... Bah, même, moi, c'est beaucoup d'architecture. Il y a très peu de gens qui apparaissent. J'ai très peu de portraits. C'est vraiment une pratique qui est un peu difficile pour moi, je pense, par timidité.
Parce que est-ce qu'il faut vraiment dire des trucs aux gens, genre, vas-y, fais l'amour à l'objectif et prendre un accent un petit peu anglais comme dans les films, ou pas du tout?
Ça peut marcher. Moi, j'aime bien le petit truc « Fais comme si tu me détestes
okay. ».
Et du coup, les gens réagissent de façon un petit peu plus brutale et se décoincent un petit peu.
D'accord.
Après, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des modèles professionnels. Quand ils sont amateurs, ils n'osent pas poser, ils ont les bras le long du corps. Et du coup, c'est ce que je dis, il y a des petites techniques qui te servent à ne pas être mauvais. Mais pour être bon, il faut vraiment que ce soit... tu le ressentes. Et du coup, le portrait, c'est, par exemple, c'est pas un travail qui me convient énormément, qui me stresse plus que le modèle, je pense.
Alors, c'est quoi le truc qui te plaît le plus?
Être tranquille avec mon appareil photo, me balader et me perdre et vraiment me laisser porter, en fait, selon mes sensations. Je vais pas forcément aller voir les monuments ou... ce qui peut être objectivement beau à photographier. Je photographie des choses... j'aime bien prendre le contre-pied de ce qui est habituellement photographié.
Ici, qu'est-ce que tu vois?
Exactement. On allait rejouer à « Ici, qu'est-ce que tu vois ?» Parce qu'il y a une station de métro et des grilles pas très jojo et des mégots par terre. Donc, qu'est-ce que tu as vu?
C'est des jeux de superposition... Du coup, il y a deux diagonales qui se forment et du coup, il y a une structure géométrique qui m'intéresse à prendre en photo.
Donc, les deux diagonales, c'est l'entrée de la station?
Bah, celui du métro et celui de la station train qui est derrière.
Ah oui, tu prends la gare qui est derrière, le bâtiment qui est derrière.
C'est ça.
J'avais pas vu le bâtiment qui était derrière, en effet, et c'est là qu'on voit le regard du photographe. Et donc, t'as cadré pour avoir les deux bâtiments.
C'est ça.
Eh bien, je propose aux auditeurs qu'on mette les photos sur l'Instagram après. Il y a un truc que je me demande toujours quand je regardais ton boulot, notamment de photos produits.
Mmh.
Est-ce que tu arrives à te rendre ça intéressant? Ou alors là, tu es vraiment dans un truc, ok, c'est du boulot. Ou est-ce que tu prends un objet en photo, un aspirateur ou un machin? Comment tu arrives à te rendre ça un peu intéressant et fun à faire?
Bon, il y a des produits, clairement, tu t'en fous. Tu okay. sais que ça va se vendre. Ouais, ça va se vendre sans gros travail. Tu mets un fond blanc, un éclairage pour que ça brille un petit peu, que ça soit attractif. Et il y a quelques produits. Bon, en vrai, c'est pas les photos qui vont être publiées en ligne. Mmh. Mais j'arrive à me prendre plus. Bah, comme la photo du poivron, en fait. Quand t'as des objets un petit peu avec un bon design, tu prends du plaisir à les photographier. Tu prends le temps de placer 2, 3, 4 éclairages. Et du coup, t'arrives à prendre un peu de plaisir.
Il y a des trucs que t'as pas encore photographié, mais que tu rêverais de photographier?
Géographiquement, le Japon.
Mmh. Oui, là, en termes d'architecture et de dépaysement, en effet, en te baladant dans les rues, il y a de quoi faire.
Non, mais c'est ça. En vrai, moi, non, c'est ça, surtout du voyage. Parce que du coup, dépayser se mettra un peu en, entre guillemets, en danger, sans connaître où tu vas mettre les pieds. Mmh. C'est un peu ce qui m'attire... L'être humain a tendance à s'ennuyer et du coup, j'aime pas être redondant et faire toujours les mêmes photos. Et du coup, découvrir de nouvelles choses en permanence, c'est un peu ce qui m'attire. Mmh.
On parle beaucoup de la photo, mais aujourd'hui, ton boulot, techniquement, c'est pas juste d'appuyer sur le déclencheur. Tu passes beaucoup de temps sur l'ordi pour trier et retoucher.
Personnellement, très peu. À part les photos de produits, parce que du coup, ça, tu peux passer des heures... Bah quand c'est ouais en vrai t'es pas censé passer des heures en retouchant les photos pour les photos de produits et surtout pour l'e-commerce. Mais de temps en temps ouais tu passes beaucoup plus de temps si les produits sont de mauvaise qualité, t'as beaucoup de petits détails à retoucher.
Donc toi finalement t'as pas tant de retouches, même sur un portrait en fait l'éclairage et la prise de vue initiale font que t'as peu de retouches.
Après tout dépend du de ce que tu veux en faire et de ce que les gens te payent pour faire aussi. Du coup un portrait en studio en général, on a, juste pour le simple fait de prendre une photo en studio, a tendance à marquer tous les défauts de la peau. Du coup, il y a toujours une partie retouche obligatoire. Mais en général, moi, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. J'aime bien les marques de la peau, j'aime bien voir les expressions. Et pour mes photos perso, à part contraste et noir et blanc, couleur, c'est très très peu de retouches, passe un temps minime sur l'écran.
Est-ce qu'il faut aimer la technique quand on est photographe? Que ce soit alors, le côté retouche dont on vient de parler, mais les éclairages, les objectifs, tu me parlais d'objectifs avec miroir, etc. Est-ce qu'il faut vraiment aussi aimer ça parce que sinon tu ne peux pas être compétent? Ou est-ce que tu peux être un photographe qui s'en fiche un petit peu?
Tu peux clairement être un photographe qui s'en fiche un petit peu, juste en regardant l'histoire de l'art, l'histoire de la photographie. Il y a plein de très très grands photographes qui ont juste fait leur carrière avec un appareil, un objectif. C'est ce qui fait aussi la continuité dans un style, enfin juste choisir une distance focale, un appareil photo, et du coup avoir un style en cohérent toute sa carrière.
Oui, donc c'est possible, ça me rassure parce que je me disais en fait ça a l'air très technique, très compliqué et tu peux... Là encore, on en revient à l'œil en fait.
Non, c'est ça, et bah, bien connaître comment fonctionne un appareil photo, les trois grands principes, vitesse, profondeur de champ et sensibilité, ça t'aide, même si tu changes pas d'objectif d'appareil photo, le principe est le même sur tous les appareils, même sur les téléphones. Si tu passes en mode pro... C'est ce qu'ils vont te demander, c'est les trois réglages qu'il faut connaître.
Allez, on rejoue à qu'est-ce que tu as vu maintenant?
La réponse, ça va être tout le temps la même. C'est un jeu de lignes, d'ombre, de lumière. Là, il y a une ombre très douce qui tombe sur le mur. Et ça contraste pas mal avec l'ombre très dure qui tombe sur la route. Et du coup, c'est un contraste qui me plaît.
Je dis ça parce que moi, je n'ai pas vu grand-chose à part, en effet, un mur sur un quai.
Non, mais toi, il y a une ombre très douce. là, ouais, qui tombe sur le mur. T'as pas de démarcation brute entre l'ombre et la lumière.
Ah oui,
du coup, ça contraste pas mal avec celle du sol qui est beaucoup plus dure.
Ah oui, d'accord. Ouais, je vois maintenant ce que tu veux dire, l'ombre douce. Et donc ça, parce que ça ressemble quand même à un blocos, quoi, pour le profane.
Bah là, on va boire, oui. Il y a une petite fontaine d'eau, c'est pas mal.
Bon, la fontaine, c'est la valeur ajoutée, mais elle est pas sur la photo. Tu fais un truc tout à fait différent. On va changer de sujet, qui s'appelle la photographie virtuelle. Pour expliquer ça clairement, tu vas me dire si je dis une erreur, tu te balades dans des jeux vidéo et tu prends des photos. Techniquement, est-ce que c'est une capture d'écran ou pas une capture d'écran? Alors, moi, je pensais... Alors, je vais clarifier pour les auditeurs. Je pensais que tu faisais ça uniquement sur PC. Donc, pour moi, je me disais, il fait un screenshot. Mais en fait, tu fais aussi ça sur console. Donc, comment ça marche?
Non, mais en vrai, l'appeler capture d'écran... Bah... Objectivement.
En fait, je sens que ça te chafouine que je dise capture d'écran.
Non, j'ai déjà répondu plusieurs fois à la question en plus, mais objectivement, c'est une capture d'écran, parce que du coup, il y a un écran et tu le captures. Après, la différence subjective, c'est que avec la photographie virtuelle, qui a pris son essor, surtout avec le confinement, c'est le point de vue. Parce que capture d'écran, ça veut dire se balader dans un jeu et capturer l'écran parce que t'as une scène belle devant toi où tu vois ton perso.
Je vais reprendre de zéro. Tu fais une photographie virtuelle. Donc, techniquement, c'est une capture d'écran. Parce que tu t'es dans un jeu vidéo, t'as pas un appareil photo, tu prends pas en photo l'écran.
C'est ça, techniquement, voilà. C'est une capture d'écran.
Mais après, là où il y a un travail de photographe, en fait, c'est que toi, tu cherches des choses particulières dans le jeu.
Il y a de ça, mais c'est aussi un mode... C'est un mode dans certains jeux vidéo qui ont été développés qui permet de sortir de... La mode de la capture d'écran est assez vieille, en fait. Mmh. Ça montrait comment tu jouais ou tes achievements.
Ce que tu as réussi dans le jeu, ouais.
Mmh.
Tes succès.
Tes succès, voilà. Et tu montrais tes succès dans le jeu ou tu arrivais en face d'un boss et clairement, enfin, tu avais ton perso visible et tu avais le boss et tu faisais une capture d'écran. Mmh. Maintenant, la différence, c'est que les gens ont bien compris qu'avec Instagram et les partages de ces images, il y avait beaucoup plus à faire. Et du coup, ça poussait les gens aussi à faire de la promotion gratuite. Mmh. Et du coup, il y a vraiment des modes photo intégrés au jeu vidéo qui te permet de mettre le jeu en pause et de se balader librement comme si tu étais un photographe indépendant de ton personnage principal et de choisir un point de vue, de choisir distance focale, profondeur de champ, contraste, mettre la photo en noir et blanc.
Ouais, donc,
et c'est la différence fondamentale pour moi entre capture d'écran et photographie virtuelle.
Ah oui, donc c'est un mode où tu joues plus en fait.
C'est ça.
T'es vraiment en balade.
Mm-hmm.
D'accord. Ah oui, d'accord. Je pensais que c'était vraiment tu jouais. Donc tu sors de ce truc-là. Est-ce que le but, c'est qu'il y ait une confusion entre le réel et le virtuel, que quand, pour toi, quand tu l'as fait, est-ce que tu te dis, il faut que les gens croient que c'est une vraie photo du monde réel, ou alors non, tu t'intègres que c'est un jeu vidéo?
T'intègres que c'est un jeu vidéo dans le sens où, des fois, quand t'as des personnages mythologiques, où c'est vraiment dur de faire autrement. Après, on est quelques-uns à essayer de développer un style beaucoup plus proche de la photo pour essayer d'effacer cette frontière qu'on a entre la photographie classique et virtuelle. Du coup, moi, je mets mes photos en noir et blanc, je rajoute du grain et j'essaie de faire des scènes réalistes dans le sens où je vais pas faire des scènes aériennes ou avec des positions impossibles. C'est comme si j'étais en train de marcher à hauteur d'homme avec mon appareil photo. Il y en a d'autres qui travaillent un style qui s'appelle le frontalisme. Donc, c'est des scènes, ils font beaucoup de bâtiments ou des scènes très géométriques. Il y en a d'autres qui s'appelle Neon Tales, qui a un style très, très cinématographique, qui travaille les couleurs comme si c'était un film. Et même les compositions, au lieu de prendre un format. Par exemple, moi, je le recadre en format 2x3. Comme si c'était une pellicule photo. Lui, il garde le format 16:9 pour travailler, pour approfondir son style cinématographique. Et il y en a d'autres comme ça.
Il n'y a pas de règle, du coup.
Du coup, il n'y a pas de règle.
Sur quel jeu tu fais ça?
J'ai commencé sur Assassin's Creed. J'en ai fait pas mal sur Watch Dogs, Cyberpunk, sur The Witcher. un de Star Wars. Et ça, pour l'instant, cela.
Ça peut être extrêmement chronophage. Dans un papier de Télérama où tu as été interrogé, tu disais que tu pouvais passer des heures à attendre la bonne lumière. C'est parce que le jeu, en fait, évolue en temps réel?
En vrai, le jeu évolue pas en temps réel, c'est souvent un peu accéléré.
Tu restes, en fait, devant le jeu à attendre que ça bouge, par exemple?
Oui, non, mais c'est ça. Enfin, tu es vraiment en mode photographe. Et si, par exemple, ma première année en Espagne avec un pote, on est parti passer la nuit dans la montagne et attendre le lever de soleil. Du coup, c'est pas aussi chronophage, mais tu peux arriver à attendre une demi-heure à voir ta scène. Attendre si tu vois qu'il y a une bonne lumière, attendre que des personnages passent devant pour jouer, faire des portraits.
Ce qui t'a poussé à faire ça, c'est la curiosité technique de faire un nouveau truc, ou c'est de dire je vais photographier des trucs que je pourrais pas photographier en vrai?
Y a un peu de ça, il y a un peu de ce rêve un peu du photographe de pouvoir revenir dans le passé, surtout pour ça que j'ai commencé avec Assassin's Creed, et faire des passés dans la Rome antique, en Grèce, un peu un rêve fou de photographe, impossible. Mais du coup, avec le confinement, ça a un peu poussé cette pratique, parce que du coup, je ne pouvais plus sortir, plus faire de photos, ça m'a un peu frustré. Et du coup, ça m'a permis de prendre le temps de travailler un petit peu cette partie-là, virtuelle.
Tu fais des montages Game Boy aussi. C'est un tout petit peu différent, mais je voulais en dire un mot parce qu'on les retrouve sur ton Instagram et ils sont quand même assez fous. Comment tu fais tes montages Game Boy? Parce que tu m'as montré, mais il faut expliquer ça aux auditeurs. Tu as racheté une Game Boy et tu prends des photos avec la Game Boy.
C'est ça. Il y a une cartouche qui s'appelle Game Boy Camera. Et du coup, ce qui permet de faire des photos, c'était un des premiers appareils photo digital, numérique. Et du coup, c'est une photo de très mauvaise qualité, comme si c'était un jeu Game Boy. Mais du coup, ce qui m'a fait un... Ouais, c'est pas rire, mais...
Parce que le rendu est assez fun, justement.
Le rendu est assez fun, mais en fait, l'idée, si tu vois le profil Instagram, c'est de prendre que des sujets sérieux. Et du coup, c'est un projet à part qui s'appelle « Ceci n'est pas un jeu ». Et du coup, c'est un peu ce contraste... ce qui se passe un peu dans le monde actuellement, tu as l'impression que les gens jouent à des choses sérieuses, mais que c'est un jeu pour eux et qu'ils jouent avec la vie des gens. Du coup, c'est un projet artistique qui était censé avoir une fin, mais du coup, que je continue. Et c'est faire des photos, du coup, sur le problème climatique, de prostitution, sur les dangers de la guerre, sur le Covid, et tout ça fait avec la Game Boy.
Mais c'est pour ça que je voulais le mentionner, parce que c'est vrai que ce contraste, en effet, entre des choses très sérieuses et cette esthétique assez fun de la Game Boy qui rappelle notre jeunesse pour les gens qui ont notre âge, il y a quand même quelque chose d'assez dingue. Pour finir sur les jeux vidéo et la photographie virtuelle, c'est un truc sur lequel tu imagines des débouchés ou c'est du pur plaisir?
Débouchés, on en a fait une expo l'année dernière dans une galerie à Madrid. Et du coup, ça en est resté un peu là, de déboucher, j'en vois pas vraiment, quoi, à part l'artistique pur et simple.
Alors là, on joue à... Et là, t'as vu quoi? Parce que moi, je vois une sorte de désert en béton, avec un peu d'herbe au milieu, des arbres derrière et des bâtiments de résidence.
Voilà, du coup, en vrai, c'est juste une photo documentaire, en fait. Quand je suis arrivé il y a 6 ans à Madrid, tout ça c'était désertique. Et là, tu viens de décrire une forêt, non?
Il y a beaucoup d'arbres derrière.
Et du coup, il y a un contraste énorme. Et je veux comparer avec les photos que j'ai faites quand je suis arrivé. Il faudrait juste que je revienne refaire la photo avec un meilleur éclairage pour faire une très bonne photo. Mais c'est juste documentaire.
Mais en fait, tu vis la photo au point que tu documentes comme ça plein de trucs?
Oui, c'est une réponse très complète, oui.
Non mais tu vois, tu fais des photos de bâtiments ou de lieux où tu as vécu régulièrement et t'aimes bien revenir en arrière pour faire un peu du doc là-dessus, quoi.
La photo c'est assez complexe, il y a plein de... comment t'appelles ça?
D'aspect ?
Ouais, d'aspect, de secteur. T'as le secteur documentaire, t'as le secteur artistique. Et la photo, c'est tellement intégré dans ma vie qu'il y a un peu tout. Enfin, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un livre photo sur les problèmes d'alcool qu'avaient des membres de ma famille. Du coup, c'est très documentaire. Avec la galerie d'art qu'on avait avec Chris, j'avais des projets très artistiques. Et du coup, ouais, c'est... J'ai pu faire la photo de mariage, c'est une autre attitude face à la photo. Ça, tu l'appréhendes pas de la même façon.
Mais pour toi, tu vois, de faire ta famille, de faire les endroits où tu vis et tout, ça prouve que ça fait, c'est pas un boulot, quoi. Ça fait partie de ton quotidien, c'est un réflexe.
Bah, clairement. Non, mais... Du coup, là, on est en train de marcher entre potes et j'ai l'appareil photo avec moi.
C'est un réflexe numérique, t'as eu. Petite blague de photographe, vous en faites un peu, vous ?
Ouais, j'y ai pensé, franchement, mais ça me paraît un peu lourd.
J'aime bien les blagues lourdes. Sur le boulot en général, pour reprendre un peu les termes d'Astérix Mission Cléopâtre, est-ce que c'est une bonne situation photographe ? Parce que c'est un métier qui fait rêver, mais est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés ? Est-ce que c'est facile d'en vivre ?
Il y a beaucoup de concurrence, on est beaucoup de photographes. Et du coup, non, c'est un peu compliqué, les prix sont tirés vers le bas. Enfin, maintenant, pour être photographe de mariage, tu factures pas autant qu'avant. Il y a toujours des petits jeunes pour commencer et casser les prix.
Tu travailles comment en fait en général aussi ? Est-ce que tu vois, tu as des statuts ? Tu as des photographes qui sont en CDI ? Alors, on est en Espagne, on se parle, mais est-ce qu'il y a des photographes qui sont dans ce qu'on appellerait des CDI en France ? Tu vois, il y a des équivalents où tu peux te faire embaucher ou c'est vraiment un boulot très précaire où tu vas de job en job, quoi ?
Bah, c'est vrai, la photographie, il y a, il y a plein de secteurs. Du coup, moi, j'étais embauché en CDI pour être photographe de produits pour un e-commerce. Maintenant, si t'es photographe de mariage, bah, tu vas être à ton compte. Pareil pour les photographes, pour les documentalistes ou le photographe de guerre. En général, ils sont en freelance. Ça dépend vraiment de ton secteur et de la façon dont t'arrives à te vendre aussi. Enfin, c'est comme partout. Quand t'es bon commercial, t'as jamais de problème à vivre de ta passion.
Et tu mets des candidatures ou c'est surtout des contacts et au bout d'un moment, bosser pour se faire remarquer, quoi ? Parce que tu as ce truc maintenant d'avoir des Instagram, toi tu as plusieurs comptes. Ça a pris, je suppose, ça a donné une dimension aussi particulière au métier Instagram parce que c'est vraiment un média de photographie en l'occurrence. Très concrètement, est-ce que tu t'es déjà fait embaucher ou remarquer grâce à tes comptes Instagram ?
Moi non, parce qu'en vrai, je poste beaucoup sur Instagram pour avoir une présence. Mais je cherche pas à faire ma promo. Du coup, avoir des milliers de followers, ça m'intéresse pas du tout.
Mais ça te sert de CV, non ? Tu peux le présenter, par exemple ?
Bah, moi, je préfère voir mon site internet. C'est ce que j'envoie quand j'envoie mon CV. J'envoie mon site internet avec. Plus que mes comptes Insta, parce que ça me paraît un peu... Bah, les gens vont aller le voir. Enfin, clairement, je sais que avant de m'embaucher, ils sont allés voir ce que je faisais.
Oui, donc ça sert quand même, ça reste un outil de com. On parlait de matos tout à l'heure et on parlait du statut, il y a beaucoup de freelance, ça demande un énorme investissement personnel du coup. Tu vas chercher sur tes deniers propres pour acheter un appareil photo et il n'est pas donné.
Il n'est pas donné, c'est une grosse inversion. Après c'est pareil, quand tu es embauché à temps complet en CDI, j'ai fait en sorte qu'on investisse... dans du matos au travail. Du coup, quand je suis arrivé, on avait un appareil photo merdique avec un petit fond blanc et pas d'éclairage. Et maintenant, on a un studio photo professionnel avec 4 flashs, plein de fenêtres, lightbox différentes. Et on a un appareil photo professionnel qui vaut 5000 euros. Mais moi, personnellement, du coup, c'est pareil. Enfin, je sais, il y a toujours un pourcentage de mon salaire qui est investi dans la photographie. Et du coup, clairement, le mois dernier, il y a 2 semaines, je me suis acheté un appareil photo, j'ai dû changer le mien, et c'est 3000 euros d'un coup que tu dois lâcher.
Oui, donc tu mets une partie de ton salaire de côté pour, euh, pour réinvestir, pour pouvoir bosser quasiment.
C'est ça. Bon, l'idée de base, avant que j'en fasse un métier, c'était ce que je gagnais avec la photo, je l'investis dans la photo. Du coup, si je faisais un mariage qu'on me payait un petit peu, bah, j'achetais un objectif. Et maintenant, du coup, que j'ai un salaire, c'est un peu plus compliqué de gérer ce budget. Parce que du coup, j'ai pas trop le temps de trouver des petits projets à côté qu'on me paye. Du coup, oui, c'est du calcul de budget.
On parlait tout à l'heure de la pratique pour progresser, etc. Quand tu regardes tes photos, on va dire d'il y a... Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? 10 ans maintenant?
Je fais ce métier. Réellement, je m'appelle. Je me fais appeler. Je me permets de me faire appeler photographe depuis 4 ans.
On va dire 4 ans. Mais t'es sorti de l'école il y a un peu plus longtemps que ça, quand même.
Ouais, 5 ans. Bon. Mais
Donc, on va prendre 5 ans. Tu regardes tes photos d'il y a 5 ans. Tu penses quoi?
Il y en a quelques-unes qui étaient pas mal. En fait, c'est le pourcentage de bonnes photos qui change, mais il y a toujours quelques clichés. Tu te dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça, vraiment. Enfin, clairement, enfin, cette photo qui est exposée, je sais qu'on va en vendre quelques-unes. C'est l'ange déchu qui est au parc du Retiro.
Donc, c'est une très belle photo où la statue est vraiment en bas du cadre. J'espère que je ne dis pas d'annerie parce que pour le coup, je ne maîtrise pas le jargon. Et au-dessus, il y a des nuages qui sont un peu dessinés. Et donc, oui, c'est très joliment mis en scène.
Et du coup, cette photo a 5, 6 ans. Et je sais qu'elle intéresse beaucoup de gens. Je sais qu'on va en vendre quelques-unes. Mais ça fait partie d'un lot où j'avais pas l'œil que j'ai aujourd'hui. Et il y a quelques exceptions comme ça. Enfin, c'est le pourcentage de photos qualitatives qui change avec le temps.
D'accord. On termine toujours avec cette question-là pour terminer l'émission. Quel conseil tu donnerais à un auditeur qui aime la photo, qui se balade un peu avec son appareil mais qui n'a pas de formation ou quoi, et qui te dirait « je veux me lancer, je veux devenir photographe professionnel ». Ce serait quoi le premier conseil que tu lui donnes? Est-ce que c'est de faire une école? Est-ce que c'est d'acheter un appareil à 5000 balles?
Non, le premier conseil, ce serait de pratiquer beaucoup. Enfin, vraiment, c'est un peu la mentalité japonaise de jusqu'à 10 000 heures de pratique, je crois, et t'es pas considéré. Je sais pas, il y a un truc comme ça.
Le maître d'art ou quelque chose comme ça, oui.
Ça, c'est vraiment. Enfin, s'improviser photographe et se vendre comme tel, comme professionnel, quand tu ne maîtrises pas encore ton appareil, c'est compliqué. Si tu veux... c'est vraiment compliqué comme question. Du coup, si tu ne te vends pas comme professionnel, c'est plus compliqué de s'améliorer. Du coup, il y a plein de gens qui commencent par la photo de mariage. Le problème qui casse un peu le marché aussi, parce que du coup, ils se vendent gratuit. Du coup, c'est un peu chiant pour les autres qui essayent d'en vivre pleinement professionnel.
Non, mais là, tu vois, je te parlais vraiment du... Si même tu avais un ado dans ta famille qui te dit « je veux faire comme toi plus tard », quoi. Tu lui dirais... Ou alors tu lui dirais « fais pas ça, c'est trop précaire ».
Ah non, enfin, clairement. Enfin, si en plus c'est un ado, il a une marge de progression énorme. Enfin, moi, j'aime bien enseigner et prendre les gens sous mon aile... Mais c'est ça, ce serait... l'école, c'est pas une obligation, c'est une aide, c'est une grande aide. Et en plus, ça te donne un diplôme qui permet de te vendre auprès des entreprises. Mais après, c'est surtout beaucoup de pratiques, beaucoup de... aller voir des musées, aller voir des expos, essayer de comprendre ce qui te plaît et de comment l'exprimer.
Eh ben, merci beaucoup.
De rien.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, rien de plus simple, laissez une évaluation et un commentaire sur votre appli de podcast. C'est gratuit et ça aide pour la promo. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Tous les comptes, c'est @occupationpod. À très bientôt pour un nouvel épisode.